des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillée dès le mardi 9 avril.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
On en a beaucoup parlé et puis finalement, ben, ça a eu lieu en fin de semaine, des prix qui ont vraiment augmenté pour toute une variété de produits à la SAQ. Déjà que ça coûte cher, vous êtes un peu découragé parfois quand vous allez, ne serait-ce que dans la province limitrophe, hein, quand vous allez en Ontario puis que vous revenez, ou quand vous allez aux États-Unis ou quand vous allez en Europe, ben vous allez après à la SAQ, vous trouvez que les prix sont très élevés. Bon, ben les prix ont augmenté de 3,7% en fin de semaine. On va essayer de comprendre pourquoi et les répercussions de tout ça avec Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube et qui est analyste en politique publique. Patrick, bonjour.
Salut Sophie.
C'était quand même sympathique d'avoir pensé à utiliser une longue fin de semaine où on sait très bien que les gens vont aller chercher des caisses de rosée ou pour fêter le long week-end, d'en profiter pour augmenter les prix. Comment on explique ça, cette augmentation des prix à la SAQ, Patrick?
Bon, évidemment, avec la pandémie et toutes les secousses que ça a entraîné, puis aussi la géopolitique particulière présentement, il y a toute la fameuse chaîne d'approvisionnement qui est perturbée. Donc, ça occasionne une augmentation de coûts à toutes les étapes. Il y a eu la sécheresse en Europe, il y a eu des difficultés de récolte. Ça, t'as des facteurs qui sont conjoncturels, mais donc la hausse comme telle, elle peut s'expliquer. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir d'où qu'on part. Et tu l'as mentionné un petit peu, c'est parce que les vins au Québec, ou même en tout cas dans le reste du Canada à un moindre degré, mais les vins au Québec, ça coûte très, très cher. Pourquoi? Parce que l'alcool est vendu essentiellement par un monopole au Québec et avec qui se garde une très, très grosse marge de profit. Donc, une bouteille de vin qui se vend 20 $ à la SAQ, ben, en gros, elle se prend une marge de profit de 50% ou si on pourrait faire une majoration de 100%. Donc, elle paye 10 $, elle revend ça 20 $ et dans le commerce de détail, il y a pas beaucoup de commerces qui peuvent se permettre ça. Quand tu parles de la France, justement, quand tu vas boire des vins en épicerie, en passant en France, il n'y a pas de SAQ. Là.
Oui, tout à fait.
Faut rappeler que dans la plupart des pays d'Europe, il n'y en a pas non plus. Là, c'est essentiellement une invention nord-américaine. Et là, les bouteilles, comme il n'y a pas cette majoration-là, puis il n'y a pas ce monopole-là non plus, il y a de la concurrence, et que les prix sont vraiment beaucoup moins chers. Ça c'est une première chose. Puis pour des bons vins aussi, là. Moi, je suis allé en France récemment, là, puis écoute, il y a une bouteille de vin, j'ai payé 6 €. 6 €, ça fait 8 $. Je l'ai trouvé tellement bonne, j'étais allé en chercher une deuxième, je l'aurais payé 20 $ ici, j'aurais été très content. Donc, il y a cet effet de monopole-là. Puis, il y a la façon dont on vend le vin aussi, c'est-à-dire que il y a toutes sortes de mauvaises justifications pour garder le monopole de la SAQ. Il y en a une entre autres, c'est des revenus pour le gouvernement. C'est on veut
oui,
on élève
ben
des taxes.
C'est quand même un bon argument parce que évidemment quand on parle, ça revient régulièrement. Hein, faut-il privatiser la SAQ? Et l'argument de ceux qui sont contre, c'est de dire c'est une vache à lait. C'est-à-dire que tout l'argent, tous les bénéfices, même si on les trouve très gros, dont tu viens de parler à la SAQ, ça sert à financer notre système de santé, notre système d'éducation. Donc, est-ce qu'on veut se priver de ces revenus-là, Patrick?
Bon, absolument. C'est ça. Donc, d'abord, la question de la privatisation, il y a aussi libéralisation. C'est simplement permettre un peu de concurrence pour voir qu'est-ce qui se passerait si les gens iraient ailleurs.
Permettre des marchands de vin, comme il y a en France, oui, c'est ça, des petites boutiques de vin.
Ça serait intéressant, mais c'est ça. Sur la question de la question de l'argent qui va effectivement dans le système de santé et d'éducation, c'est une très bonne question, mais est-ce que le gouvernement aurait besoin de maintenir toute cette très lourde infrastructure, c'est-à-dire d'avoir des succursales, c'est d'avoir du béton, d'avoir des entrepôts pour vendre ça, parce que ça, il y a un coût pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, au Canada, au Québec, l'essence est taxée. Et le gouvernement ne possède plus, parce que Petro-Canada, c'est plus une propriété gouvernementale, ne possède plus une seule station d'essence au pays. Ça les empêche pas de prélever des centaines de millions en revenus. Donc, si ce qu'on voulait, c'est juste des revenus, ben, c'est parfait, c'est correct. Ça se défend tout à fait de dire que c'est un produit de luxe. On va le taxer, mais à ce moment-là, On n'a pas besoin d'avoir tout le réseau. On dit on a une taxe de X.
C'est intéressant.
C'est tout. On prélève ça et on s'évite aussi parce que, tu sais, le monopole, ça fonctionne aussi pour du côté du vendeur, mais il y a d'autres conséquences à ça. Par exemple, les employés de la SAC. Quand on les compare aux autres employés du commerce de détail, ils sont vraiment payés très cher. Tu sais, c'est des salaires de 25 $ et plus avec des conditions sociales qui sont très favorables.
Ben oui, c'est des employés de l'État, là, quand même. Alors que normalement, dans une épicerie, c'est pas parce que t'es mal payé dans une épicerie, mais t'as pas des conditions salariales et sociales qui ressemblent à ça, là.
C'est le commerce de détail, c'est-à-dire que tu vends du... Tu sais, il y a d'autres des gens qui sont dans des boutiques spécialisées, que ce soit pour vendre des ordinateurs, des vélos, il y a toutes sortes de choses qui se vendent. Ça prend quand même un certain nombre de qualifications que tu apprends, mais ça prend pas non plus des diplômes à n'en plus finir pour travailler dans la vente au détail. Et à peu près partout dans les commerces de vente au détail, les conditions de travail reflètent ça. Souvent des employés qui sont plus jeunes aussi, qui sont à temps partiel, bref. Et à la SAC, ben on est un petit peu dans un marché qui est un petit peu séparé parce que ben on peut se le permettre. Et donc, ça aussi, ça c'est une autre chose. Quand les salaires des employés de la SAC augmentent, ben c'est ce qui se retrouve moins dans les coffres du gouvernement. Et là, évidemment, on y va, ben oui, mais c'est le service, puis ainsi de suite. Encore là, j'ai aucun problème avec ça. Mais peut-être qu'il y a des gens qui préféreraient aujourd'hui pouvoir dire, écoutez, moi, donnez-moi-en pas de service, je fais mes recherches pour prendre l'expression consacrée. Il y a des applications pour le vin et ainsi de suite. J'ai même pas besoin d'avoir de conseils. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que qu'est-ce qui arrive quand la SAC veut faire des gains de productivité? Parce que, puis c'est important les gains de productivité, hein, parce que c'est pour ça qu'on vit mieux qu'il y a 50 ans en travaillant moins, là, qu'on gagne des meilleurs salaires en faisant des moins longues semaines parce que les employeurs, les industries innovent. Et là, la SAQ veut, elle, centraliser puis automatiser ses commandes en ligne, puis bon, d'abord, elle veut aussi sa variété de produits. Présentement, on parle de 3 000, 3 500 produits. On vise 20 000 produits. C'est très bien.
Bel objectif, oui.
Ben oui, c'est ça. C'est donner du choix. C'est correct. Écoute, c'est correct qu'un monopole qui se force pour donner du choix, là, sans la pression de la concurrence. Et on veut diminuer les délais de livraison pour passer 3-5 jours à 24 heures. Encore là, c'est une excellente nouvelle. Quelle a été la réaction du syndicat des employés de la SAC, ça, il y a peut-être une semaine, 10 jours, c'est... On est contre transformer la SAQ en machine à distribuer des bouteilles.
Ben là, c'est hallucinant! Bienvenue au 21e siècle, les amis, là. On vit à l'époque d'Amazon, et veut pas, c'est Amazon qui donne le « là ». C'est-à-dire, c'est eux qui mettent la formule étalon et toutes les autres entreprises, tous les autres organismes doivent se mettre au diapason. Donc, quand on parle de livraison dans les 24 heures, puis que t'es contre, mais est-ce qu'il n'y a pas une question plus fondamentale encore que ça, que même plus fondamentale que toutes les questions qu'on se pose depuis le début, Patrick? Qu'est-ce que le gouvernement a d'affaires à faire du commerce de détail? Point à la ligne, ça devrait être ça. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement de faire du commerce de détail?
Ça date de la prohibition. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose qui est nord-américain. C'est que là, il y avait des questions de santé publique. Quand on a permis la vente de l'alcool, c'était à ce moment-là la commission des liqueurs. Puis c'était vendu derrière le comptoir, puis dans des petits sacs bruns. Puis
on se rappelle de ça.
C'est ça. Après ça, il y a eu la régie des alcools. Puis là, évidemment, la SAC est passée. Là, c'est devenu une célébration, le vin, les alcools, c'est associé à notre hausse du niveau de vie, le bon temps. Mais au départ, c'est un relan de la prohibition, puis on est encore pris avec. Et donc, comment sortir? Ben là, évidemment, tout privatiser d'un coup, ça serait difficile à faire. On peut commencer par ouvrir les vannes, puis juste permettre de voir ce que la concurrence ferait, notamment sur le choix, sur l'offre de service. Sur les produits, il y a encore un acheteur unique qui décide à la SAC qu'est-ce qui va être vendu du Québec, partout, dans toutes les boutiques au Québec. Quand on va aux États-Unis, par exemple, on voit, il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis, ceci dit, il y a des liquor stores, mais dans certains États, la vente d'alcool est libéralisée. C'est qu'au New Jersey, par exemple. Puis d'un magasin à l'autre, ça se ressemble pas pantoute. Tandis qu'ici, bien évidemment, il y a quelque chose, c'est mieux qu'avant, là, on n'est pas en Union soviétique, là, mais je veux dire, là, c'est quand même un petit peu plus uniformisé. Puis aussi, pour revenir du côté du syndicat, tu sais, la préoccupation du syndicat, c'est intéressant parce qu'il disait sur la volonté de rendre le choix plus grand puis de réduire les délais de livraison avec l'automatisation, c'est on n'a aucune garantie que les emplois vont être préservés. Je dis ben j'espère.
Mais oui. Ben j'espère.
C'est ça le but. Le but, c'est d'augmenter l'efficacité et de diminuer les coûts. Et là, ça, c'est de penser en l'envers parce que, tu sais, OK, on va faire vendre à l'État un produit que des gens veulent acheter parce que après ça, on va pouvoir envoyer de l'argent au gouvernement puis préserver des emplois. Ben, à ce moment-là, on va le faire dans tous les domaines. C'est pourquoi l'État ne vendrait pas des souliers, ne gérerait pas des épiceries, ne gérerait pas des voitures. Donc, c'est une drôle de façon de penser. Et en plus, on est en pénurie d'emplois. Donc, c'est pas comme si, tu sais, on manque de monde. Fait qu'on peut-tu justement faire des gains ou est-ce que c'est permis? Fait qu'en tout cas, tu sais, quand l'État s'embarque là-dedans,
oui, mais c'est aussi
quelque chose d'un petit peu étrange.
Et je trouve, je veux pas taper sur la tête des syndicats, mais on voit que c'est vraiment un syndicat qui défend l'existence d'un syndicat. Je veux dire, c'est comme tu peux à la fois être un syndicat et un peu penser au bien collectif, à arrêter de regarder juste ton nombril, parce que si ton seul objectif c'est de préserver des emplois de tes membres. Ben je veux dire c'est comme je disais tout à l'heure, bienvenue au 21e siècle, il y a d'autres prérogatives dans la société que juste de maintenir des emplois extrêmement bien payés. Puis quand ils disent on veut pas devenir juste une machine à distribuer des bouteilles, ben c'est parce que la SAQ c'est aussi ça. Tu sais, c'est pas vrai que dans n'importe quel autre commerce ça se résume à ça. Puis tout d'un coup, quand tu rentres dans un truc du gouvernement, il y a comme une plus-value. Je veux dire, je sais pas, moi,
tu as tout à fait raison, Sophie, parce qu'il y a des produits, tu sais, il y a certains vins, là, je suis sûr que tu as des préférences, moi j'en ai, on les a achetés 10 fois, je suppose me leur faire conseiller, je veux juste
à chaque fois,
point, puis je le prendrais dans une machine distributrice, je serais parfaitement heureux. Mais il peut y avoir des différents modèles de vente, mais c'est plus difficile de se développer dans un système comme celui-là.
Oui, puis de toute façon, je m'excuse, mais il existe une telle chose que des spécialistes du vin. Je pense à nos collègues des méchants raisins ici à Cube Radio à Québécois, Nadia Fournier, le guide du vin. Je veux dire, c'est rempli de Élise. Je veux dire, c'est rempli de gens. Véronique Rivet. Je veux dire. C'est pas vrai que les gens vont dans une SAQ et ils se disent « Eh mon Dieu, j'ai-tu assez hâte de rencontrer mon conseiller de la SAQ pour qu'il me dise... » Je veux dire, les gens se rendent dans une SAQ en ayant fait imprimer la chronique de Véronique Rivet, en ayant fait imprimer la liste des vins de moins de 20$ du Journal de Montréal, du Journal de Québec, puis après ils vont à la SAQ et ils disent « Pouvez-vous me donner tel vin? » Je veux dire, c'est ça la réalité, Patrick, là?
Oui, absolument. Puis, tu sais, il n'y a rien qui empêche. C'est ça qui serait intéressant. C'est si on permettait à des cavistes, il y a certainement des cavistes qui pourraient se développer dans des marchés de luxe, par exemple. C'est sûr, tu vas acheter un cognac, ça coûte cher. Tu connais pas ça. Là, peut-être, effectivement, là, tu vas avoir besoin de faire des broussailles un petit peu. C'est correct aussi. Mais ça va se faire naturellement. Tu vas avoir des boutiques haut de gamme, tu vas avoir des boutiques moins haut de gamme, oui. Puis tu vas avoir des machines distributrices. Mais là, présentement, donc c'est pas tout à fait comme ça que le syndicat voit ça, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Ça risque d'être comme ça pendant un moment, puis l'alcool va continuer à coûter cher au Québec.
Vive le modèle québécois, hein? Vive le gouvernement là, qui était là, qui veut nous protéger, parce que l'alcool, c'est dangereux. L'alcool, faut faire attention, là, faut cacher ça sur des... On a l'impression d'être justement d'être en Afghanistan avec le ministère de la promotion de la vertu et de la répression du vice. Tabarnouche. En tout cas, écoute, je veux absolument qu'on prenne quelques instants. Non, pars-moi pas sur la SAQ parce que, écoute, en tout cas, c'est pas pour rien que je suis né en France. Puis où est-ce que je suis né en France? À Bordeaux. Bon. On ne dira pas à une Bordelaise quel genre de vin elle a le droit de boire puis quel genre de vin elle n'a pas le droit de boire. Puis voilà. Bon. Même si, de ces temps-ci, c'est plus de l'eau que je bois que du vin. Donc, écoute, je veux absolument qu'on parle de cette histoire-là. 32 000 constats qui ont été émis pendant la pandémie pour non-respect des mesures. Beaucoup de bureaucratie pour pas grand-chose, Patrick, hein?
Oui, puis j'en parlais. C'est une nouvelle qui est passée inaperçue. Là, c'est sorti dans le soleil là, il y a peut-être une dizaine de jours, là, sous la plume d'Élisabeth Fleury. 31 845 constats qui ont été donnés pour les mesures, le non-respect des mesures sanitaires. 50 millions le total des amendes. C'est énorme. Il y a 18 000 de ces constats-là, surtout qui ont été remis pour le couvre-feu, le non-respect du couvre-feu, donc plus que la moitié des constats, en fait, je devrais dire le non-respect des deux couvre-feux, parce que le Québec se distingue. On est le seul endroit au Canada où il y a eu un couvre-feu, mais nous, on n'a pas fait une fois, on l'a fait deux fois. Mmh. Et ce qui est doublement dommageable là-dedans, puis un peu tragique, c'est que les quartiers défavorisés sont surreprésentés. Donc, des gens qui sont plus difficiles à rejoindre, ou des fois des problèmes des endroits où c'est pas nécessairement facile, où les gens ont peut-être plus besoin de sortir de chez eux pour toutes sortes de raisons. Il y a des constats qui ont été remis aux itinérants aussi. C'est pas des milliers, mais c'est quand même quelques centaines. Près de 300 constats aux itinérants,
mais,
évidemment.
Mais ça, c'est absurde.
Par définition, comment tu veux faire pour respecter un couvre-feu quand tu es un itinérant? Là, tu peux aller dans un refuge, mais tu sais, c'est plus compliqué que ça. On se rappelle, dans le premier couvre-feu, il y avait dès que ça avait été dit qu'il allait avoir un couvre-feu à Montréal, où évidemment on connaît la réalité de l'itinérance, on a levé la main du côté de la santé publique et de la ville, oui, pour dire, écoutez, c'est pas une bonne idée, là, ça va causer des problèmes. Là, la santé publique l'avait dit par en dessous, on l'a appris un an plus tard, la ville, elle l'avait dit un petit peu plus fort, Mme Plante. Et qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, il y a un homme, une personne itinérante qui est morte, qui a eu peur de la police, qui s'est caché dans une toilette extérieure pendant qu'il faisait très, très froid, et qui en est morte. Et malgré tout, on a refait un couvre-feu quand même une année plus tard. Et là, après ça, tu as toutes les conséquences bureaucratiques, c'est-à-dire que il y a des amendes qui ont été contestées. Ça pourrait potentiellement donner lieu à 15 000 procès. 15 000 procès.
Mais la bonne nouvelle, Patrick, c'est que notre système de justice est pas du tout engorgé. Hein, il y a pas du tout de pénurie de main d'œuvre. Il y a pas des procès qui sont remis à cause de l'arrêt Jordan. Il y a pas un manque de greffières. Il y a aucun problème. Fait que, regarde, amenez-en des causes. 15 000 procès, il y a pas de problème, Patrick.
Tu dis, écoute, tu sais, moi, je l'avais dénoncé la toute première fois, quand il avait été instauré, tu sais, je me rappelle, j'avais dit, sur le coup, j'avais dit, écoutez, on va voir, peut-être que c'est ça que ça prend pour donner un coup de fouet. Et là, frapper l'imaginaire. Et rapidement, ce qu'on a vu, c'est que l'évolution des cas était la même partout au pays, c'est-à-dire que ça descendait pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le couvre-feu. Et là, on était plusieurs à dire, enlevez ça, ça n'a pas d'allure, c'est contre-productif. Ça envoie un message aussi, c'est bien trop fort, puis on ne sait pas au mauvais endroit. On l'a quand même maintenu. Il n'y avait aucune base scientifique pour ça. On a enduré ça pendant des mois. Évidemment, on l'a remis cet hiver encore. Puis, tu sais, quand tu parles de tirer dans le pied là, à plusieurs niveaux, parce que, ça fait complètement décrocher des gens, des mesures sanitaires qui auraient été plus ciblées, puis au bon endroit, qui auraient fait une différence. Et en plus de ça, on s'en va engorger le système judiciaire. C'est comme gâchis bureaucratique. T'sais, je rappelle là quand même, là, quand Dr Arruda, cet hiver, quand il a reparlé, quand on lui a dit, écoute, il faut faire de quoi, et là, on a instauré un couvre-feu là en catastrophe, alors que les hôpitaux étaient en train de se remplir, puis on ne savait plus quoi faire pour stopper ça. On a fait ça le 31 décembre. Avant la conférence de presse qui avait été tenue la veille, 6 heures avant, Dr Arruda, il a écrit à ses subordonnés, à la direction de la santé publique, avez-vous des études pour justifier le couvre-feu? Ça, c'était là, un an plus tard, couvre-feu version 2.0, on veut le réinstaurer, on est 6 heures avant le couvre-feu, on cherche encore des études pour le justifier, on se fait répondre en milieu d'après-midi, il n'y en a pas, et on le fait pareil, puis on se ramasse après ça avec le gâchis, écoute, d'un bout à l'autre, là, c'est formidable.
Ouais, écoute, vraiment... Découragé par tes deux sujets d'aujourd'hui. La SAQ, les constats. Oui, s'il te plaît, essaie de nous remonter le moral au lieu de nous le miner, notre moral. Merci beaucoup, Patrick Derry, donc chroniqueur ici sur les ondes de Cube Radio et analyste de politique publique. Bon, on se retrouve jeudi. Merci, Patrick.
Bonne journée, à bientôt.